Chapitre 44e. J'achète Zaïre, Crève-cœur, Bombak, voyage à Moscou, suite de mes aventures à Pétersbourg, je vois la tsarine, mes entretiens avec cette souveraine, je quitte Zaïre, mon départ de Pétersbourg. M'étant écarté de la maison impériale d'une centaine de pas vers Zinoviev, je découvris une jeune paysanne d'une beauté surprenante. L'ayant fait remarquer au jeune officier, nous nous acheminâmes vers elle. Mais leste et svelte comme une biche, elle s'enfuit jusqu'à une chaumière peu éloignée où elle pénétra. Nous l'y suivîmes, et y étant entrés, nous vîmes son père, sa mère, quelques enfants, et la belle qui se tenait tapie dans un coin comme un lapin qui aurait eu peur d'être dévoré par la meute qui l'aurait suivi. Zinoviev, qui est celui qui passa 20 ans à Madrid en qualité de ministre de l'impératrice, parla assez longtemps en russe avec le père. Je ne comprenais rien, mais je devinais qu'il était question de la jeune fille parce que le père l'ayant appelée, elle s'avança d'un air obéissant et soumis et se tint debout devant nous, les yeux baissés, avec modestie. Après avoir longtemps parlé, Zinoviev étant sorti, je le suivis, après avoir remis un rouble au bonhomme. Zinoviev me rendit compte de son long entretien et me déclara qu'il avait demandé au père s'il voulait lui donner sa fille pour servante, que le père lui avait répondu de ne pas demander mieux, mais qu'il en voulait 100 roubles parce qu'elle était encore vierge. « Vous voyez, ajouta Zinoviev, qu'il n'y a rien à faire. Et si j'étais disposé à les verser, alors elle serait votre servante, et vous pourriez en faire tout ce que bon vous semblerait, excepté la tuer. Et si elle ne voulait pas, ça n'arrive jamais. Mais alors vous pourriez la rouer de coups. Supposons qu'elle soit contente. Dites-moi si, après en avoir joui et la trouvant de mon goût, je pourrais continuer à la garder. Vous devenez son maître, vous dis-je, et vous pouvez même la faire arrêter si elle se sauve, à moins qu'elle nous rende les 100 roubles que vous aurez déboursés pour l'avoir. Et que faudra-t-il que je lui donne par moi? Rien, si ce n'est à boire et à manger. La laisser aller au bain le samedi pour qu'elle puisse se rendre à l'église le dimanche. Et quand je quitterai Pétersbourg, pourrais-je la forcer de venir avec moi? Non, à moins que vous n'en obteniez la permission en versant caution, car cette fille, pour être votre esclave, ne cesse pas d'être au premier chef l'esclave de l'impératrice. Bien. Voulez-vous m'arranger cette affaire? Je donnerai les 100 roubles et je l'emmènerai avec moi. Je vous promets que je ne la traiterai pas en esclave, mais je me recommande à vous car je ne voudrais pas être trompé. Je traiterai l'affaire moi-même, et je vous promets qu'on ne me trompera pas. Voulez-vous que ce soit tout de suite? Non, demain, car je ne veux pas que la compagnie soit au courant du secret. Soit, à demain. Nous retournâmes à Pétersbourg tout ensemble dans un grand phaéton, et le lendemain à 9 heures je l'ai trouvé Zinoviev, qui était enchanté, disait-il, de me rendre ce petit service. Chemin faisant, il me dit que pour peu que j'en eusse envie, il me formerait en quelques jours un harem composé d'autant de belles filles que je voudrais. Quand je suis amoureux, lui dis-je, il ne m'en faut qu'une. Et je lui donnai les 100 roubles. Nous arrivâmes à la chaumière où nous trouvâmes le père, la mère et la fille. Zinoviev leur ayant proposé crûment l'affaire, selon l'usage du pays, le père remercia Saint-Nicolas de la bonne fortune qu'il lui envoyait. Puis, ayant dit un mot à sa fille, elle me regarda et prononça doucement le « oui » que je comprenais. Zinoviev me dit alors que je devais m'assurer que la coque était intacte, puisqu'en signant je reconnaîtrais que je l'achetais vierge. Craignant de lui faire un affront, je me refusai à toute enquête, mais Zinoviev m'assura que la fille serait mortifiée si je ne la visitais point, et qu'au contraire, je lui ferais un grand plaisir en la mettant à même de convaincre ses parents qu'elle n'avait pas cessé d'être sage. Je me soumis alors à l'épreuve de la façon la plus modeste, mais la plus complète, et je la trouvai intacte. À la vérité, je ne lui aurais pas donné un démenti quand bien même elle aurait été entamée. Zinoviev remit ensuite les 100 roubles au père, qui les donna à sa fille. Celle-ci ne les prit que pour les remettre à sa mère. Mon domestique et mon cocher entrèrent pour signer le contrat, en qualité de témoin d'une convention dont ils ignoraient entièrement la substance. Cette jeune fille, que je baptisai Zaïre, monta en voiture et nous suivit à Pétersbourg vêtue de gros draps et sans chemise. Après avoir amené Zinoviev, je retournai chez moi, où je m'enfermai 4 jours, sans la quitter un instant, jusqu'à ce que je la vis habilitée à la française, sans luxe, mais très proprement. Je souffrais de ne pas savoir le russe, mais en moins de 3 mois, Zaïre sut assez bien l'italien pour me dire tout ce qu'elle voulait et pour me comprendre. Le jour où je pris Zaïre, je renvoyai Lambert, dont je ne savais plus que faire. Il s'adonnait à la boisson au point de s'enivrer chaque jour, et alors c'était une brute insupportable. J'ai su dans la suite qu'il était entré au service de l'Autriche. Au mois de mai, Zahir était devenue si belle qu'ayant envie d'aller à Moscou, je n'eus pas le courage de la laisser à Pétersbourg. Je l'emmenai avec moi, me privant de domestique. J'avais un plaisir extrême à l'entendre me jargonner son joli vénitien. Le samedi, j'allais au bain russe avec elle. Il y avait 30 ou 40 hommes et femmes, tous nus, mais comme chacun ne regarde personne, on s'imagine n'être vu que le soi. Cette absence de honte prend sa source dans un grand fond d'innocence native. J'ai été surpris que personne ne regarde Zahir, qui me paraissait l'original de la statue de Psyché que j'avais vue à la Villa Borghese à Rome. Sa gorge n'était pas encore entièrement développée, car elle n'avait pas 14 ans, et ne portait encore que de légères traces de puberté. Blanche comme la neige, ses cheveux étaient d'ébène, d'une longueur et d'une épaisseur prodigieuses, car son beau corps nu en était littéralement couvert, si ce n'est quelques parties dont la blancheur brillante semblait scintiller à travers la dentelle de cette chevelure. Deux arcs, d'une extrême perfection et d'une grande finesse, recouvraient deux yeux admirablement fondus, qu'on aurait pu désirer un peu plus grands peut-être, mais qu'on ne saurait imaginer plus brillants et plus expressifs. De larges paupières, bordées de longs cils très épais, tempéraient leur ardeur par un air de modestie enchanteur. Je ne dirais rien de sa bouche qui semblait faite pour embrasser. Une pomme d'api et que de ronds de perles ornaient entre les lèvres de corail. Sans sa jalousie désespérante, sans son aveugle confiance dans l'infaillibilité des cartes qu'elle consultait 10 fois par jour, cette Zahir aurait été une merveille et je ne l'aurais jamais quittée. Un jeune Français, d'une figure distinguée et avenante, qui se nommait Crèvecœur et qui décelait une éducation soignée, vint à Pétersbourg avec une jeune Parisienne qui l'appelait la Rivière et qui était passablement jolie, mais elle n'avait aucun talent et aucune éducation, si ce n'est celle qu'ont à Paris toutes les jeunes filles qui font commerce de leur charme. Ce jeune homme vint me porter une lettre du prince Charles de Courlande, qui me demandait que, si je pouvais être favorable au jeune couple, il m'en serait reconnaissant. Il vint avec sa belle dans le moment où je déjeunais avec Zahir. « C'est à vous, dis-je au jeune Français, à me dire en quoi je pourrais vous être utile. En nous accordant votre société et en nous procurant vos connaissances, me dit-il. » Bombach, en bourgeois que j'avais connu en Angleterre, d'où il avait fui pour dette, était venu à Pétersbourg où il avait eu le bonheur d'entrer au service militaire. Fils d'un riche négociant, il tenait maison, domestique, voiture. Il aimait les filles, la bonne chère, le jeu, et faisait des dettes à force. Laid, il était vif, roué et rempli d'esprit. Je lui présentai le noble couple. Bombach nous invita tous à dîner chez lui pour le lendemain, et engagea mes compagnons à aller avec lui le jour même à Krasnakabak pour y prendre un dîner sans façon. Il me pria d'en être aussi et j'acceptai. Zahir, ne comprenant pas le français, me demanda de quoi il était question et le lui ayant dit, elle témoigna le désir de m'accompagner. Je consentis à la satisfaire car je voyais que c'était par jalousie et je craignais les suites qui se manifesteraient par de l'humeur, des larmes, du désespoir et par cette tyrannie de femme maîtresse qui, pour me conformer aux mœurs du pays, m'avait déjà forcé plus d'une fois à l'abattre. Qu'on ne s'en étonne pas, mais c'était le meilleur moyen de lui prouver que je l'aimais. Tel est le caractère des femmes russes. Après les coups, elles redeviennent tendres peu à peu, et l'amour achève la réconciliation. Notre partie fut gaie. Bombach ne parla qu'avec l'aventurière. Zahir se tint presque toujours sur mes genoux. Crèvecœur mangea, rit à propos et hors de propos, et se promena. La fine La Rivière provoqua Bombach à jouer 25 roubles au 15, qu'il perdit très galamment et qu'il lui paya, ne se procurant d'autre satisfaction que de l'embrasser. Zahir, très contente d'avoir été de cette partie où elle craignait que je ne lui fisse des infidélités, me dit 1000 choses plaisantes sur la Française et sur son amoureux, qui n'en était pas jaloux. Cela surpassait son imagination et elle ne comprenait pas comment elle pouvait souffrir qu'il se montrât si sûr d'elle. « Mais je suis sûr de toi. » Et pourtant tu m'aimes. C'est que je ne t'ai jamais donné occasion d'en douter. Le lendemain, j'allais seul chez Bombach. Certains y trouvaient de jeunes officiers russes qui m'auraient ennuyé en faisant la route à Zahir dans leur langue. J'y trouvais le couple voyageur et les deux frères Luni, lieutenant alors, aujourd'hui généraux. Le cadet était blond et joli comme une fille. Il avait été le bien-aimé du secrétaire de cabinet Teplov, et garçon d'esprit, non seulement il se mettait au-dessus du préjugé, mais il se vantait même de faire profession de captiver par des caresses la tendresse et la bienveillance de tous les hommes qu'il fréquentait. Ayant supposé dans le riche hambourgeois le goût qu'il avait trouvé dans Teplov, et ne s'étant pas trompé, il aurait cru me dégrader, en ne me supposant pas les mêmes goûts. Dans cette idée, il se mit à table près de moi et me fit tant d'agaceries pendant le dîner que je crus de bonne foi que c'était une fille travestie. Après dîner, assis devant le feu entre lui et la Française, je lui fis connaître mes soupçons. Mais Louny, fière de la supériorité de son sexe, en fit l'étalage sur le champ. Et intéressé à savoir si je pourrais rester froid à l'aspect de sa beauté, il s'empara de moi, et se croyant sûr de me plaire, il me mit en position de faire ce qu'il appelait son bonheur et le mien. Madame Larivière interpella le mignon. Je lui fis remarquer qu'elle n'avait pas à se mêler de mes affaires. Louny prit mon intervention pour une déclaration en sa faveur. Il mit donc en étalage toutes ses beautés, montra sa poitrine blanche mettant au défi Madame Larivière d'en faire autant. Celle-ci s'y refusa en nous adressant les épithètes les plus violentes. Nous lui répondîmes par des qualificatifs du même genre et elle nous laissa en paix. Le jeune Russe me témoigna les marques les plus concluantes de sa tendre amitié. Je lui répondis sur le même ton et nous nous jurâmes un amour éternel. Louny, l'aîné, Crèvecœur et Brombac, qui étaient allés se promener, revinrent à l'entrée de la nuit avec deux ou trois amis qui consolèrent facilement la Française de la mauvaise compagnie que nous lui avions tenue le jeune Louny et moi. Brombac fit une banque de pharaons qui ne finit qu'à 11 heures quand il n'eut plus d'argent. Nous soupâmes alors et puis la grande orgie commença. Larivière en fit les frais avec une valeur incroyable. Je ne fus que spectateur avec le jeune Louny, mon nouvel ami. Le pauvre Crèvecœur était allé se coucher. Nous ne nous séparâmes qu'au jour. J'arrive chez moi, j'entre dans la chambre, et par un bonheur inouï, j'évite une bouteille que Zahir me lance à la tête et qui m'aurait tué si elle m'avait attrapé. Furieuse, elle se jette à terre qu'elle frappe du front. La pitié m'émeut, je cours à elle, la saisissant avec force, je lui demande ce qu'elle a, et la croyant devenue folle, je pense à appeler du monde. Elle s'apaise, mais fondant en larmes, elle m'appelle assassin, traître, et me débite toutes les épithètes qui lui viennent à l'esprit. Pour me convaincre de mon crime, elle me montre un carré de 25 cartes où elle me fait lire toutes les débauches qui m'ont tenu dehors toute la nuit. Après l'avoir laissé dire, sans l'interrompre, tout ce qui pouvait servir à la soulager de sa jalousie et de sa rage, je prends son grimoire que je jette au feu. Puis, la regardant d'un œil où se peignaient la foi et ma juste colère et ma pitié, je lui fais connaître qu'elle a failli me tuer et que, ne voulant plus m'exposer à ses fureurs, nous devrons nous séparer sans retour dès le lendemain. Je lui avouai qu'effectivement j'avais passé la nuit chez Brombac, qu'il y avait une fille, mais je niais tous les excès qu'elle m'imputait. Ensuite, ayant besoin de repos, je me couchai et m'endormis sans lui faire la moindre caresse, malgré tout ce qu'elle fit en se coulant auprès de moi pour me convaincre de s'en repentir et obtenir son pardon. Au bout de 5 ou 6 heures, m'étant réveillé et la trouvant profondément endormie, je m'habillai en pensant moyen de me défaire de cette fille qui, dans sa jalouse fureur, finirait par me tuer tôt ou tard. Pendant que cette idée me préoccupait, ne me sentant plus auprès d'elle, elle s'éveilla, se leva, et vint tomber à mes genoux, me renouvelant tout en larmes les assurances de son repentir, implorant mon pardon, invoquant ma pitié, et me jurant qu'elle ne toucherait plus des cartes aussi longtemps que j'aurai la bonté de la garder. Qu'une femme belle et qu'on aime est une tentation puissante dans cet état. La conclusion fut que, la prenant dans mes bras, je lui pardonnais et ne la laissais qu'après lui avoir donné les marques les plus évidentes du retour de ma tendresse. J'avais fixé mon départ pour Moscou à 3 jours de là, et je la comblais de joie en lui promettant de l'emmener avec moi. 3 choses avaient puissamment aidé à me rendre cette jeune fille amoureuse exaltée. L'une était que je la conduisais souvent à Katerinov pour voir sa famille, où je laissais toujours un rouble, l'autre que je l'avais battue 3 ou 4 fois lorsqu'elle avait voulu m'empêcher de sortir. En Russie, la nécessité de battre est absolue, car les paroles n'ont aucune force. Un domestique, une maîtresse, une femme du commun ne connaissent que les étrivières. Vous perdriez votre latin à parler raison ou morale, et quelques coups de cravache ou de gourdin vigoureusement appliqués ont seul de l'efficacité. Le domestique, dont l'âme est encore plus esclave que le corps, raisonne après avoir reçu les coups, et son raisonnement est celui-ci. Mon maître ne m'a pas renvoyé, il m'a battu, donc il m'aime. Par conséquent, je dois lui être attaché. Il en est de même du soldat russe, et c'est naturel, puisqu'il est de la souche du peuple. L'honneur ne saurait avoir de prise sur lui, mais avec des coups et du brandevin, on peut en obtenir tout ce qu'on veut, excepté les élans héroïques. Papanélopoulos s'était moqué de moi, lorsqu'au commencement de mon séjour, je lui avais dit qu'aimant mon cosaque, je voulais me l'attacher par la douceur, ne le corrigeant que par des paroles, lorsqu'il se privait de la raison à force de brandevin. « Si vous ne le rossez pas, m'avait-il dit, il finira par vous rosser. » Et cela m'arriva comme il me l'avait dit. Un jour que je le trouvais tellement ivre qu'il était incapable de me servir, je m'avisai de le gronder en le menaçant de ma canne s'il ne se corrigeait pas. Dès qu'il vit la canne en l'air, il court à moi et s'en saisit. Si je ne l'avais pas renversé sur le coup, il n'y a pas de doute qu'il ne m'eût battu. Je le chassai à l'instant. Il n'y a pas au monde de meilleur domestique que le russe, infatigable au travail, dormant sur le seuil de la porte de la chambre où son maître couche, pour être toujours prêt à courir à ses moindres ordres, toujours soumis, ne répondant jamais quand son tort est évident et incapable de le voler. Mais il devient un monstre ou un imbécile quand il a bu, et c'est le vice de tout le peuple. Accouché, exposé au froid le plus violent quelquefois durant toute la nuit, ne connaît d'autre moyen d'y résister que celui de boire de l'eau-de-vie de grain. Il arrive souvent, s'il en boit un peu de trop, de s'endormir sur le siège et alors il ne peut plus se réveiller. Le malheur de perdre une oreille, le nez, un morceau des joues ou une lèvre arrive souvent, si on y prend garde. Un jour, revenant à Pétersbourg en traîneau par un froid des plus vifs, un russe s'aperçut que j'allais perdre une oreille. Il vint aussitôt me frotter avec une poignée de neige jusqu'à ce que toute la partie cartilagineuse que j'allais perdre se fût ranimée par ce frottement à froid. Interrogé, il me dit que l'on s'en aperçoit facilement à la blancheur livide qui est le signe infaillible d'une chair gelée. Ce qui me surprit et qui aujourd'hui encore me paraît incroyable, c'est que quelquefois la partie perdue revient. Le prince Charles de Courlande m'a assuré qu'un jour en Sibérie, il perdit le nez, qui recrut pendant l'été. Plusieurs Russes m'ont assuré la vérité de ce phénomène. Tout étant disposé pour mon voyage de Moscou, je me mis dans ma dormeuse avec Zahir, ayant derrière un domestique qui parlait russe et allemand. Pour 80 roubles, un tchevotchik russe, loueur de chevaux, s'engagea à me transporter à Moscou en 6 jours et 7 nuits avec 6 chevaux. C'était à fort bon marché. N'allant pas en poste, je ne pouvais pas prétendre à plus de vitesse, car la distance était de 72 postes russes. Cela fait à peu près 500 milles d'Italie, environ 160 lieues communes de France. Nous partîmes au moment où le coup de canon de la citadelle annonça que le jour était fini. C'était vers la fin du mois de mai, époque où, littéralement, il n'y a plus de nuit à Pétersbourg. Sans le coup de canon qui annonce que le soleil est descendu au-dessous de l'horizon, personne n'en saurait rien. On peut y lire une lettre à minuit, et la lune ne contribue nullement à rendre la nuit plus claire. C'est beau, dit-on, mais cela me parut ennuyeux. Ce jour continuel dure 8 semaines. Personne, durant ce temps, n'allume des chandelles. Il n'en est pas de même à Moscou. 4 degrés demi de latitude moins qu'à Pétersbourg font qu'à minuit il faut toujours de la chandelle. Nous arrivâmes à Novgorod en 48 heures et le Chevotchik nous y permit un repos de 5 heures. J'y fus témoin d'une chose qui me surprit beaucoup, quoique bien peu de choses doivent surprendre quand on voyage beaucoup, et surtout chez des peuples à demi sauvages. Le Chevotchik, invité à boire un coup, se montra fort triste. Ayant voulu en savoir la raison, il dit à Zahir qu'un de ses chevaux ne voulait pas manger, et il en était au désespoir, car, disait-il, s'il ne mange pas, il ne voudra pas marcher. Nous l'accompagnons à l'écurie, où nous trouvons le cheval triste, la tête baissée, immobile et sans appétit. Son maître commence à lui faire une harangue d'un ton doux et pathétique, le regardant avec tendresse, et comme s'il avait voulu réveiller dans l'animal des sentiments qui devaient l'engager à s'efforcer de manger. Après cette harangue, il lui prit la tête, et l'ayant baisé avec amour, il la lui mit dans la crèche. Tout fut inutile. Alors le Chevotchik se prit à pleurer, mais d'une façon qui me donnait la plus violente envie de rire, car je voyais évidemment qu'il espérait attendrir le cheval par ses pleurs. Quand il eut bien pleuré, il lui prit de nouveau la tête, la baisa, et la lui remit dans la mangeoire. Ce fut encore inutilement. Furieux d'une pareille obstination, le Chevotchik lui jura de s'en venger. Il le mena hors de l'écurie, attacha le pauvre animal à un poteau, prit un gros bâton et le roussa à coups redoublés pendant 1/4 d'heure. Le cœur m'en saignait. N'en pouvant plus de fatigue, le Chevotchik ramena le cheval à l'écurie, l'attacha au râtelier, et l'animal se mit à dévorer, tandis que son maître riait, sautait de joie et faisait 1000 folies pour témoigner son allégresse, comme pour montrer à son cheval le bonheur qu'il lui causait. Pour moi, j'en étais dans un étonnement extrême, et je crus que cela ne pouvait arriver qu'en Russie, où les coups de bâton semblent avoir résolu le problème de la panacée. Je livre cette anecdote à la méditation des vétérinaires et des maquignons. On m'a dit que depuis, les coups de bâton sont un peu tombés de mode en Russie. Du temps de Pierre Ier, qui donnait des coups de canne à ses généraux quand il n'en était pas content, et où un lieutenant devait recevoir avec soumission les coups que lui appliquait son capitaine, qu'il recevait les étrivières de son major, qu'il recevait de son colonel, qu'il les supportait de son général, les affaires doivent avoir un peu changé. Je tiens cela du vieux général Voyakov, qui était un élève de Pierre le Grand, et qui m'a dit avoir plus d'une fois senti la canne de ce grand homme, de ce créateur de Pétersbourg. Je crois n'avoir encore rien dit de cette ville déjà si célèbre, et dont l'existence pourtant me semble toujours précaire. Il fallait un génie de fer comme celui de Pierre pour donner un démenti à la nature en forçant un terrain de boue, une terre sans consistance, à supporter des édifices énormes en marbre et en granit, et fonder sa capitale au milieu de cet amas de palais que l'on ne peut élever qu'à des frais énormes. On me dit qu'aujourd'hui cette ville est déjà adulte, et il la reçoit à la Grande Catherine, mais en l'année 1765, elle était encore dans l'enfance, et tout me semblait construit dans le but puéril d'avoir beaucoup de ruines. On y pavait les rues avec la certitude de devoir les repaver 6 mois plus tard. Tout montrait une ville qu'un despote puissant avait fait élever à la hâte, et en effet, Pierre le Grand en était accouché en 9 mois, quoiqu'il eût mis peut-être beaucoup plus de temps à la concevoir. Nous arrivâmes à Moscou comme notre chevauchik nous l'avait promis. Voyageant avec les mêmes chevaux, il n'était pas possible de franchir cette distance en moins de temps. Comme j'en parlais, un russe me dit que l'impératrice Élisabeth avait fait ce voyage en 52 heures. « Je le crois bien, » dit un autre russe de la vieille roche. La tsarine avait lancé un oukase à cet effet, et s'il l'avait voulu, elle aurait pu le faire en moins de temps. Elle n'aurait qu'à prescrire le nombre d'heures par un oukase. C'était un fait que, de mon temps, il n'était pas permis de douter de l'infaillibilité d'un oukase, car on se serait cru coupable d'un crime de lèse-majesté. Je traversais un jour à Pétersbourg un canal sur un petit pont de bois. J'étais avec Melissino, Papanelopoulo et autres Russes. Je m'avisais de blâmer le petit pont qui était mesquin et qui menaçait ruine. L'un de mes compagnons me dit que pour un certain jour il serait remplacé par un beau pont en pierre, parce que l'impératrice devait y passer pour je ne sais quelle solennité. Ce jour étant à 3 semaines du moment où nous parlions, je dis que la chose n'était pas possible. Un russe, me regardant de travers, me dit qu'il ne fallait pas en douter, puisqu'il y avait un oukase qui l'ordonnait ainsi. Je voulus répliquer, mais Papanelopoulo me serra fortement la main et me dit en italien « Taci, taisez-vous ». Le pont ne fut pas fait, mais je n'eus pas raison, car l'impératrice publia un autre oukase dans lequel sa majesté annonçait que son bon plaisir était que le dit pont ne fût fait que dans le courant de l'année suivante. Voilà l'heureux régime du despotisme par excellence. Les souverains de Russie ont toujours employé en tout le langage du despotisme. J'ai vu un jour l'impératrice s'habiller en homme pour aller se promener à cheval. Son grand écuyer, le prince Repnin, tenait la bride du cheval qu'elle devait monter, lorsque le cheval s'avisa de donner au prince un coup de pied qui lui cassa la cheville. L'impératrice ordonna à l'instant que le cheval disparût et prononça la peine de mort contre celui qui oserait le remontrer à ses yeux. Toutes les charges en Russie sont assimilées à un rang militaire, ce qui suffirait pour indiquer la nature du gouvernement. Le premier cocher de Sa Majesté impériale a rang de colonel, ainsi que son premier cuisinier. Le Castralouini avait le rang de lieutenant-colonel, et le peintre Toratine n'avait que celui de capitaine, parce qu'il n'avait que 800 roubles par an, tandis que le cocher en avait 3 000. Les sentinelles qui se tiennent aux portes intérieures des appartements de l'impératrice ont toujours les fusils croisés, et demande à ceux qui se présentent quel est leur rang. Quand on me fit cette demande et qu'on me l'eût expliqué, je demeurai court. Mais l'officier intelligent me demanda combien j'avais de rente. Et lui ayant répondu au hasard 3 000 roubles, il me donna rang de général et on me laissa passer. Ce fut dans cette chambre que je vis un moment la tsarine. Elle s'arrêta à la porte et se déganta pour donner ses belles mains à baiser aux 2 sentinelles et à l'officier qui m'avait fait général. C'est par ces procédés débonnaires qu'elle se captivait l'amour de ce corps qui était commandé par Grégor Grégorovitch Orlov, dont, en cas de révolution, dépendait la sûreté de sa personne. Voici ce que je remarquai la première fois que je suivis cette princesse à sa chapelle, où elle allait entendre la messe. Le proto-papa, l'évêque, la reçut à la porte pour lui présenter l'eau bénite et lui baisa la bague en même temps que le prélat, décoré d'une barbe de 2 pieds de long, baissa sa tête pour baiser la main de sa souveraine, qui était à la fois son maître temporel et son patriarche au spirituel. Car en Russie, celui ou celle qui gouverne l'État est chef spirituel de l'Église. Durant toute la messe, elle ne donna aucun signe de dévotion. L'hypocrisie n'était pas de son caractère. Elle honorait d'un riant coup d'œil tantôt l'un, tantôt l'autre des assistants, adressant de temps en temps la parole à son favori, auquel elle n'avait sans doute rien à dire. Mais elle voulait le rendre un objet d'envie en faisant voir à tous que c'était lui qu'elle mettait au-dessus de tous les autres. Un soir, au sortir de l'opéra, où l'on avait donné l'Olympia de Metastasio, je lui entendis prononcer ces paroles. La musique de cet opéra a fait le plus grand plaisir à tout le monde, et par conséquent j'en suis ravi. Mais je m'y suis ennuyé. La musique est une belle chose, mais je ne conçois pas comment on peut l'aimer passionnément, à moins qu'on n'ait rien d'important à faire ou à penser. Je fais venir actuellement Buranello. Je suis curieuse de voir s'il saura me rendre la musique intéressante, mais j'en doute, car je crois n'être pas constitué pour la sentir. C'était toujours ainsi qu'elle raisonnait. Je dirai en son lieu ce qu'elle m'a dit à mon retour de Moscou. Dans cette ville, je descendis à une bonne auberge où l'on me donna 2 chambres et une remise pour ma voiture. Après dîner, je louai une voiture à 2 places et je pris un domestique de place qui parlait français. Ma voiture était à 4 chevaux, car Moscou est une vaste cité composée de 4 villes, et il faut courir beaucoup dans des rues mal pavées quand on a beaucoup de visites à faire. J'avais 5 ou 6 lettres, et je voulus les porter toutes. Certain de ne pas descendre, je menais avec moi ma chère Zahir, curieuse de tout comme une jeune fille à 14 ans. Je ne me souviens pas quelle fête l'église grecque célébrait ce jour-là, mais je me souviendrai toujours de l'assommante sonnerie des 1000 cloches que j'entendais dans toutes les rues, car il y a des églises partout. On semait alors le blé pour en faire la récolte en septembre, et on se moquait de nous, qui le semons 8 mois avant eux, en prétendant que ce n'est pas nécessaire, et que cela ne peut que rendre la moisson moins abondante. J'ignore s'ils ont tort ou raison, mais il se peut que nous soyons également dans le vrai, car l'expérience est en ceci l'institutrice par excellence. Je portai à leurs adresses toutes les lettres que j'avais reçues à Pétersbourg du grand veneur Narychkine, du prince Repnine, de mon bon Papanelopoulo et du frère de Melesino. Le lendemain matin, je reçus la visite de tous ceux auxquels j'avais été adressé. Ils m'invitèrent tous à dîner avec ma Zahir. En 8 jours, je vis tout, fabrique, église, vieux monuments, cabinet, bibliothèque et la fameuse cloche. J'observai que leurs cloches ne sont point posées en branle comme les nôtres, mais solidement. Ils les sonnent au moyen d'une corde attachée au bout du battant. J'ai trouvé les femmes à Moscou plus belles qu'à Pétersbourg, et je crois que cela tient à l'air qui est infiniment plus sain. Elles sont d'un accès très doux, très facile, et pour obtenir d'elles la faveur d'un baiser sur les lèvres, il suffit de faire semblant de leur baiser la main. Quant à la chair, je l'ai trouvée en profusion, mais sans délicatesse. Leur table est toujours ouverte à tous leurs amis et connaissances, et un ami y conduit à dîner, sans façon, 5 ou 6 personnes, et quelquefois la fin du repas. On n'a pas d'exemple qu'un Russe dise « Nous avons dîné, vous venez trop tard ». Ils n'ont pas l'âme assez noire pour prononcer ces mots. C'est l'affaire du cuisinier, et le dîner recommence. Ils ont une boisson délicieuse dont j'ai oublié le nom, mais bien supérieure au sorbet de Constantinople. On ne donne point à boire de l'eau domestique, qui sont partout très nombreux, mais une boisson légère, agréable au goût et nourrissante, et à très bon marché, car pour 1 rouble, on en fait 1 grand tonneau. Ils ont tous une grande dévotion à Saint-Nicolas. Ils ne prient Dieu que par l'intermédiaire de ce saint, dont l'image est toujours dans quelque coin de la chambre où le maître reçoit ses visites. Celui qui entre fait la première révérence à l'image, la seconde au maître, si par hasard l'image ne s'y trouve pas. Le Russe, après l'avoir cherché des yeux, reste interdit, perd la tête et ne sait plus à quel saint se vouer. En général, les moscovites sont les chrétiens les plus superstitieux du globe. Leur liturgie est grecque. Le peuple n'y comprend rien, et le clergé, fort ignorant lui-même, est bien aise de l'entretenir dans l'ignorance et l'obscurantisme. Je n'ai jamais pu faire comprendre à un Calogero, qui parlait latin, que la seule raison qui fait que les chrétiens romains font le signe de la croix en passant la main de gauche à droite, tandis que les chrétiens le font en passant la main de droite à gauche, et que nous disons Spiritus Sancti, tandis que les Grecs disent en langue grecque Agios Pneuma. Nous retournâmes à Pétersbourg comme nous en étions venus. Zahir aurait désiré ne jamais quitter Moscou. Se trouvant constamment près de moi, elle était devenue si amoureuse que je ne pouvais penser sans affliction au moment où je devrais l'abandonner. Le lendemain de notre arrivée à Pétersbourg, je la menai à Katerinhof, où elle montra à son père tous les petits présents que je lui avais faits, en lui racontant avec détail tous les honneurs qu'elle avait reçus en qualité de ma fille, ce qui fit beaucoup rire le bonhomme. Je fis ce jour-là le voyage de Tsarskoe-Selo, de Peterhof, de Kronstadt, car il faut tout voir dans un pays quand on veut pouvoir dire « j'y ai été ». J'écrivis sur plusieurs matières pour tâcher d'entrer au service civil. Je présentai mes productions qui passèrent sous les yeux de l'impératrice, mais le tout sans succès. On ne fait qu'un en Russie que de ceux qu'on y appelle. Ceux qui se présentent d'eux-mêmes y font rarement fortune, et je ne saurais leur donner tort. Je pensais à partir au commencement de l'automne, mais M. Panine et Alzouviev me disaient toujours que je ne devrais pas m'en aller sans pouvoir dire que j'avais parlé à l'impératrice. « J'en serais fâché aussi, » leur répondais-je, mais n'ayant trouvé personne qui ait voulu me présenter, il ne me reste qu'à me résigner. Panine me dit enfin d'aller me promener de bonne heure au jardin d'été, où Sa Majesté impériale allait très souvent, et où, me rencontrant comme par hasard, il était très probable qu'elle me parlerait. Je lui dis que je désirais pouvoir rencontrer Sa Majesté un jour où il se trouverait avec elle. Il m'indiqua le jour et je m'y rendis. Je regardais en me promenant tout seul les statues qui bordaient l'allée, statues de mauvaise pierre et de plus mauvais goût, mais qui devenaient comiques par les noms qui étaient gravés dessous. Une statue en pleurs devait offrir Démocrite. Une autre, qui semblait devoir se fondre dans la bouche à force de l'écarquiller, portait le nom d'Héraclite. Un vieillard à longue barbe s'appelait Sappho, et une vieille femme à la gorge délabrée portait le nom d'Avicenne. Tout le reste était dans ce goût. Comme je souriais de voir l'aberration qui avait inspiré ces non-sens, je vis paraître la tsarine qui s'avançait, précédée du comte Orloff et suivie de deux dames. Le comte Panine était à sa gauche. Je me mis en haie pour la laisser passer, mais dès qu'elle fut à portée, elle me demanda d'un air riant si la montée de ces statues m'avait bien intéressé. Je lui répondis en suivant ses pas que je me figurais qu'on les avait placées là, pour en imposer au sot ou pour faire rire ceux qui connaissaient un peu l'histoire. « Tout ce que je sais, me dit l'impératrice, c'est qu'on a trompé ma bonne tante, qui d'ailleurs ne s'en souciait guère. J'espère, au reste, que tout ce que vous aurez vu chez nous ne vous aura pas semblé aussi risible que ces statues. » J'aurais manqué à la vérité et à la politesse si, à cette excitation, je n'eusse démontré qu'en Russie, ce qui faisait rire n'était que l'ombre du grand tableau de ce qu'il y avait à admirer. Là-dessus, j'entretins cette grande souveraine pendant plus d'une heure de choses que j'avais trouvées remarquables à Pétersbourg. La conversation m'ayant amené à parler du roi de Prusse, je fis l'éloge du grand homme, mais je censurai l'habitude insoutenable qu'il avait de ne jamais donner à la personne qui l'interrogeait le temps d'achever sa réponse. Souriant alors de la manière la plus gracieuse, Catherine me demanda compte des entretiens que j'avais eus avec ce monarque, et je lui dis tout de la façon la plus avantageuse. Elle eut alors la bonté de me dire qu'elle ne m'avait jamais vu au Courtag. Le Courtag était un concert instrumental et vocal qu'elle donnait à son palais tous les dimanches après dîner et où tout le monde avait accès. Elle s'y promenait et adressait la parole à ceux qu'elle voulait honorer. Je lui dis que je n'y avais été qu'une fois, ayant le malheur de ne pas aimer la musique. Se tournant alors vers son cher Panine, elle dit en souriant qu'elle connaissait quelqu'un qui avait le même malheur. Le lecteur, il se le rappelle, ce que je lui avais entendu dire en sortant de l'opéra, jugera que je fis ici le rusé courtisan, et je l'avoue. Mais il est difficile de ne pas l'être avec les souverains, surtout avec les souverains en jupon. La tsarine cessa de m'écouter pour parler à M. Beskoy, qui venait de s'approcher, et M. Panine l'ayant quitté, je sortis aussi du jardin, enchanté de l'honneur que j'avais eu. Cette princesse, de taille moyenne, bien faite et d'un port majestueux, avait l'art de se faire aimer de tous ceux qu'elle croyait curieux de la connaître. Sans être belle, elle était sûre de plaire par sa douceur, son affabilité et son esprit, dont elle se servait avec un tact exquis pour dérober aux yeux toute espèce de prétention, et cela était d'autant plus admirable qu'elle pouvait à bon droit avoir très bonne opinion d'elle-même. Quelques jours après, le comte Panine me dit que l'impératrice lui avait demandé deux fois de mes nouvelles et que c'était un signe certain que je lui avais plu. Il me conseilla d'épier les occasions de la rencontrer et m'assura que, m'ayant déjà goûté, elle me ferait dire de l'approcher toutes les fois qu'elle me verrait, et que si j'avais envie d'être employé, elle pourrait penser à moi. bien que je ne susse pas moi-même à quel emploi je pourrais être propre, dans un pays qu'au reste je n'aimais pas, je fus bien aise de savoir qu'il me serait facile de me procurer quelques accès à la cour. Dans cette vue, j'allais tous les jours me promener au jardin, et je vais rapporter en détail le second entretien que j'eus avec cette princesse. M'ayant aperçu de loin, elle m'envoya un officier pour m'inviter à l'approcher, et comme on parlait partout du carrousel que le mauvais temps avait empêché de donner, elle me demanda si à Venise on pourrait donner un spectacle dans ce goût. Je lui répondis là-dessus beaucoup de choses sur les spectacles qu'on ne pouvait pas donner ailleurs et qui l'amuseraient. Je lui dis à ce sujet que le climat de ma patrie était plus heureux que celui de la Russie, en ce que les beaux jours y étaient de règle ordinaire, tandis qu'à Pétersbourg ils étaient de rares exceptions, malgré l'année que les étrangers y trouvaient plus jeune que partout ailleurs. « C'est vrai, » dit-elle, « car chez nous elle est plus vieille de 11 jours. » « Ne serait-ce pas une opération digne de votre majesté de rendre la Russe de même âge que la nôtre en adoptant le calendrier grégorien ? Tous les protestants l'ont fait avec avantage, et l'Angleterre, en l'adoptant il y a 14 ans, a déjà gagné plusieurs millions. L'Europe est étonnée, madame, que le vieux style subsiste dans un état où le souverain est le chef visible de l'Église, et lorsque la capitale possède une académie des sciences. On croit, madame, que le grand Pierre, qui voulut que l'on commence l'année au 1er janvier, aurait aussi opéré l'abolition du vieux style, s'il n'eût cru de son intérêt de se conformer à l'Angleterre, qui anime alors le commerce de votre vaste empire. « Vous savez, » dit-elle d'un air affable et avec un sourire plein de finesse, « que le grand Pierre n'était pas savant. Madame, il était plus que savant. L'immortel Pierre était un génie de premier ordre. Un tact fin lui tenait lieu de science. Il lui faisait porter un jugement plein de rectitude sur tout ce qu'il voyait ou qu'il croyait propre à augmenter le bien-être de ses sujets. Son vaste génie, aidé d'un caractère ferme et décidé, l'empêchait de donner dans le faux et lui fournissait les moyens de couper dans le vif des abus qui pouvaient être un obstacle à l'atteinte de ses grands desseins. Sa Majesté, qui paraissait m'avoir écouté avec plaisir, allait me répondre quand elle aperçut deux dames qu'elle fit appeler. Elle me dit « Je vous répondrai avec plaisir une autre fois. » Puis elle se tourna vers les dames. Cette autre fois arriva 8 ou 10 jours après, quand je commençais à croire qu'elle ne se souciait plus de me parler, car elle m'avait vu et ne m'avait pas fait appeler. Elle débuta en me disant que ce que je désirais qu'elle fît pour augmenter la gloire de la Russie était déjà fait. Toutes les lettres que nous écrivons en pays étranger, tous les actes publics qui peuvent intéresser l'histoire, sont dès à présent marqués des dates, l'une dessus, l'autre dessous, et tout le monde sait que celle qui excède 11 jours est la moderne. Mais j'oserais faire observer à votre majesté qu'à la fin de ce siècle, les jours excédents seront 12. Point du tout, car c'est encore fait. La dernière année de ce siècle, qui n'est pas bissextile chez vous, ne le sera pas aussi chez nous. Ainsi, il ne restera plus entre nous aucune différence réelle. N'est-il pas vrai que ce retranchement suffit dès qu'il empêche les progrès de l'erreur ? Il est même heureux que l'erreur soit de 11 jours, car étant le nombre qu'on augmente chaque année à l'épact, nous pouvons dire que votre épact est la nôtre, à la seule différence d'une année. » Elle disait, d'un ton très modeste et d'un style très simple, son avis avec précision, et son esprit paraissait imperturbable autant que son humeur, dont sa figure riante annonçait l'égalité. Comme elle s'en était fait une habitude, cela ne devait pas lui coûter de la peine, mais cela n'en diminue pas le mérite, car pour l'exercer, il faut avoir une force supérieure au mouvement ordinaire de la nature humaine. Le maintien de la grande Catherine, tout opposé à celui du roi de Prusse, indiquait un génie plus vaste que celui de ce monarque. Le dehors de bonté par lequel elle encourageait lui assurait toujours de l'avantage, tandis que la brusquerie étudiée du soldat de Potsdam l'exposait souvent à en être la dupe. Quand on examine la vie de Frédéric, on admire son courage, mais on voit en même temps que sans la fortune, il aurait succombé. Quand on examine au contraire celle de Catherine, on trouve qu'elle a dû compter très peu sur le secours de l'aveugle déité. La tsarine me parla des mœurs des Vénitiens, de leur penchant au jeu de hasard, et me demanda à ce propos si la loterie de Gênes y était déjà établie. On a voulu, dit-elle, me persuader de la permettre dans mes états, et j'y aurais consenti, mais à condition que la mise ne pût jamais être au-dessous d'un rouble, et cela pour empêcher les pauvres d'y jouer. Je répondis à cette sage observation par une profonde inclination de tête, et ce fut la fin du dernier entretien que j'eus avec cette femme célèbre, qui a su régner 35 ans sans jamais commettre une faute essentielle. L'historien lui accordera toujours une des plus belles places dans l'histoire des grands souverains, malgré les moralistes rigides qui la placeront dans la classe des femmes sensuelles et avec raison. Peu de jours avant mon départ, je donnais une fête à Katerinhof à tous mes amis, avec un beau feu d'artifice qui ne me coûta rien. C'était un cadeau de mon ami Mellissimo. Mon souper à 30 couverts fut exquis et mon bal brillant. Malgré la ténuité de ma bourse, je me crus obligé de donner à mes amis cette marque de ma reconnaissance pour toutes les attentions qu'ils m'avaient prodiguées. En rentrant chez moi, je trouvais Zahir tranquille, mais triste, et cela me déplaisait encore plus que la colère, parce que je l'aimais. Mais je devais en finir, et me préparer à toute la peine que notre séparation nous causerait. L'architecte Rinaldi, vieillard de 70 ans, mais frais et sensuel, était amoureux d'elle. Il m'avait dit plusieurs fois que je lui ferais un grand plaisir de la lui laisser en partant, m'offrant de me donner le double de ce qu'elle m'avait coûté. Mais je lui avais toujours répondu que je ne la laisserais jamais à quelqu'un avec lequel elle ne serait pas de bon gré, puisque j'étais dans l'intention de lui faire présent de la somme que je retirerais. Cela ne plaisait pas à Rinaldi, car il ne se flattait pas de lui plaire. Néanmoins, il espérait. Le hasard le mena chez moi le matin même où j'avais déterminé de finir l'affaire, et comme il parlait fort bien le russe, il rendit compte à Zahir de toute l'affection qu'il lui portait. Elle lui répondit en italien que, ne pouvant appartenir qu'à celui à qui je laisserais son passeport, c'était à moi qu'il devait s'adresser, qu'elle ne pouvait avoir de volonté que la mienne, mais qu'elle n'avait de dégoût ni d'attachement pour personne. Ne pouvant en obtenir de réponse plus positive, cet honnête vieillard nous quitta après avoir dîné avec nous, espérant peu, mais se recommandant toujours à moi. Quand Rinaldi fut parti, je priai Zahir de me dire sincèrement si elle m'en voudrait de la laisser à ce digne homme qui la traiterait comme sa propre fille. Zahir, après avoir soupé avec moi de très bonne humeur, me demanda si M. Rinaldi, en l'apprenant, me rembourserait les 100 roubles que j'avais donnés à son père. Lui ayant répondu que oui, elle ajouta « Mais à présent, il me semble que je vaux bien plus, car tu me laisses tout ce que tu m'as donné et puis je parle l'italien. Tu as parfaitement raison, mon enfant, mais je ne veux pas que l'on puisse dire que j'ai gagné sur toi. » D'autant plus que j'ai l'intention de te faire présent des 100 roubles qu'il me remettra quand je lui donnerai ton passeport. Puisque tu veux me faire ce beau présent, pourquoi ne me remets-tu pas à ton père avec mon passeport? Si M. Rinaldi m'aime, tu n'as qu'à lui dire de venir me voir chez mon père. Il parle russe comme lui. Ils s'accorderont sur le prix et je ne m'y opposerai pas. Seras-tu fâché qu'il me paye ce que je vaux? Non, en vérité. Et je serai au contraire bien aise d'avoir été utile à ta famille. D'autant plus que Rinaldi est riche. Cela suffit, et tu seras toujours cher à ma mémoire. Mets-moi demain à Katerinhof, et allons nous coucher. » Telle fut l'histoire de ma séparation d'avec cette charmante fille, qui fut cause que je vécus à Pétersbourg d'une façon assez sage. Zinoviev me dit qu'en fournissant une modique caution, j'aurais pu partir avec elle, et qu'il m'aurait facilement obtenu cette permission. Mais je pensai aux suites, et j'eus le bon esprit de ne pas le vouloir, car j'aimais haïr. Elle se développait, et avec sa beauté et la tournure de son esprit, je serais devenu son esclave.